Bonjour à tous et bienvenue sur le mug Nowtech. Attendez, est-ce que ma caméra... Non, je suis pas sur la bonne caméra. On recommence. Bonjour et bienvenue sur le mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés sur Twitter. Est-ce que Twitter devient payant? Il y a plein d'autres news tech. Nous sommes le 26 février 2021. On est toujours en février? Ouais, c'est bon. On démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est fort probable qu'on ait des petits problèmes de micro. Je vous demande juste s'il y a des petits lags de micro. S'il y a une ou deux personnes qui le disent, ça va. Mais quand vous voyez qu'il y a une ou deux personnes qui communiquent, qu'il y a un problème de lag de micro, c'est pas la peine de le dire en plus. Ça spam. Moi, ça m'empêche de lire s'il y a des questions à ce moment-là ou des choses intéressantes. Laissez plutôt la modération m'informer des problèmes techniques que t'y mettre tous. J'apprécie beaucoup le geste, mais en fait, vous m'arrangez pas le problème, en général. On a un lag de cam. Voilà un nouveau problème aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Lag de cam. J'ai rien changé dans mes paramètres. J'ai rien changé sur l'ordi, si ce n'est que maintenant j'ai un PC. Donc voilà, d'un jour sur l'autre, je vais avoir des résultats différents. Est-ce que je peux arranger les choses rapidement? Je sais pas. Je vais essayer de diminuer le débit vidéo en temps réel. On aura peut-être une dégradation de l'image, mais on fera avec. Pourquoi il veut pas... Voilà, 3000. Yep. Bon, on verra si ça ira mieux. Tant que le son ne lag pas, on va continuer comme ça. On ne redémarre pas. Jérôme en 12. Je suis toujours en 12. Ouais, il y a un petit lag de caméra. En tout cas, c'est bizarre parce que j'ai pas le CPU est utilisé à 3%. Le débit est bon. Je sais pas. Pas trop dérangeant. Allez, on attaque. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de tout cela. Nous allons parler des abonnements payants, des pages entreprises, des pages communautés. Tout ça arrive sur Twitter. Twitter fait son plein de nouveautés. Nous parlerons également de Valve. Eh bien, le juge a décidé que Valve devait transmettre combien d'argent 436 jeux différents ont rapporté à Valve et doit informer Apple. Je reviendrai sur cette affaire. Nous parlerons également de l'indice de réparabilité des iPhones et des Mac, puisqu'ils sont maintenant affichés sur le site. Mais vous verrez, il y a une petite entourloupe façon Apple. On continuera avec Apple, c'est de la grosse rumeur qui tâche, mais est-ce que les prochains Apple iMac pourraient être disponibles en divers coloris? Est-ce que Apple renouerait avec cette très vieille tradition d'Apple? Je vous montrerai en dernier article quelque chose d'assez impressionnant. Moi, en tout cas, ça m'a impressionné, c'est un article de l'ADN sur le do-it-yourself sur TikTok, comment... la génération Z arrive à faire du montage en temps réel avec leur smartphone. C'est assez hallucinant pour quelqu'un de l'image et tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'image. Ça peut sembler ridicule quand on la voit faire, mais le résultat est assez bluffant. Vous verrez. Et nous aurons une petite cerise sur le gâteau, une histoire assez jolie. On parle souvent des Apple Watch qui sauvent des vies. Et bien cette fois, c'est un Google Pixel qui a sauvé la vie d'un homme après un accident. Je vous raconterai cette très belle histoire. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autre. J'ai dit la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr une cerise sur le croissant. Vous m'aurez corrigé. Deux minutes de live, il a déjà mis du coup de Boubou, Windows et Apple. Voilà. Merci beaucoup, Anfronea, pour ton Prime. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'ai ratées? J'ai un problème d'actualisation. Merde, je vois pas qui a pris dans le fil d'actualité. Pourquoi j'ai rien qui marche? Peut-être parce que c'est vendredi. Merci IMAX S pour ton Prime également, 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Allez, je vous prépare, je vous propose qu'on démarre tout de suite. On lance le Kawa. Bon, alors certains, manifestement, c'est insupportable la caméra. Est-ce qu'on a un gros problème de caméra? Je demande à la modération, je ne lis pas tout le monde. Merci, ND76, pour ton Prime, 3e mois d'abonnement. Bon, n'oubliez pas qu'il y a aussi des problèmes qui peuvent venir de chez vous, hein. Problème de lag, mais je vois, oui, il y a une légère latence de la caméra. Comme on est en train d'expérimenter des nouveaux systèmes de live, je peux vous garantir que nous allons avoir quelques problèmes pendant quelques temps. Il va falloir comprendre d'où vient tout cela. Voilà. Maintenant, si c'est vraiment inaudible ou inregardable, bah, je vous comprendrai de faire l'impasse. Voilà. on commence, on va parler effectivement de Twitter. Beaucoup, beaucoup de news côté Twitter lors de la conférence Analyst Day qui s'est tenue en ligne jeudi 25 février. Twitter a annoncé une pléthore de nouvelles fonctions. Parmi elles, l'arrivée des abonnements payants Super Follow, le lancement des communautés, des pages dédiées aux entreprises et l'autobloc. Alors, le super follow, qu'est-ce que ça va être? En fait, ça permettra aux utilisateurs de Twitter enfin, pour les followers de payer, et donc pour les créateurs de contenu de faire payer du contenu exclusif, des tweets et des flits bonus qui ne seront réservés qu'aux gens qui ont le super follow, l'ajout d'un groupe communautaire vocal. Coucou. Country House, des badges spéciaux, des newsletters inédits, autant d'avantages qui pourront être offerts contre un soutien financier, soutien qui pour l'instant, a priori, s'élèverait à 4,99 $. Il est fort probable que dans un deuxième temps, le créateur de contenu puisse fixer lui-même la somme des super follow. Donc à voir. Il s'aligne un peu sur les plateformes sociales hein, comme Patreon, Facebook, YouTube, Twitch et GitHub qui permettent comme ça effectivement de créer un statut spécial dans les followers. Merci beaucoup Jess pour ton Prime. Ah, je comprends pas pourquoi mes Primes ne s'affichent plus. Bon, c'est pas grave. Ça ressemblera. Merci Sandokan aussi pour ton sub 5e mois. Merci beaucoup à vous. Twitter veut devenir OnlyFans. Peut-être pas quand même, mais c'est pas forcément bête hein, de la part de Twitter. C'est vrai que, alors je sais que certains d'entre vous n'aiment plus du tout Twitter. Vous savez quoi? J'ai un problème. Plus grave que la caméra. J'ai oublié mon mug à l'autre bout de la pièce. Je suis obligé d'aller prendre mon mug. J'ai soif. Yep. Voilà. J'ai failli tout faire tomber. Je sens que c'est un vendredi catastrophe. Merci Sawa pour ton sub. 6e mois d'abonnement. Merci. Après, bon, alors tout le monde va dire, est-ce que Jérôme... Alors nous, pour de toute façon, c'est pas encore activé. On n'a pas vraiment les dates. Je crois que de quand ça va arriver. En tout cas, pas dans cet article. Donc, j'ai pas les dates. Nous, je vais vous le dire très clairement. Si l'API de Twitter nous permet de détecter les super follow de Twitter dans Discord, Ça sera juste pour nous un autre moyen. On a déjà Patreon, on a les YouTube members et on a les subs et les primes dans Twitch qui nous permettent automatiquement de vous ouvrir les forums de discussion réservés aux contributeurs dans Discord. Nous, il faut qu'il y ait cet automatisme-là. Donc, si l'API de Twitter qui a un plug avec Discord nous permet de le faire, on ajoutera les super follow comme moyen de contribution. S'ils ne permettent pas de faire ça, je pense pas qu'on activera les super follow. Nous justement on veut que tout soit automatisé pour que l'accès justement à la partie réservée aux contributeurs du Discord gère les entrées mais surtout les sorties, parce que quelqu'un qui ne contribue plus, et c'est normal, n'a plus accès aux parties réservées aux contributeurs du Discord. Donc nous, il faut que ça soit automatique. C'est quelque chose qu'on faisait manuellement à l'époque de Tipeee. C'est ingérable, complètement ingérable. Voilà. Après, peu d'interaction avec les créateurs de Twitter. Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que Twitter, alors peut-être pas nous, peut-être pas tout ce qui est divertissement, tech et tout ça, mais en tout cas moi, je sais pas vous, mais Twitter reste quand même mon réseau social favori pour aller prendre des news, pour les groupes de presse, et il y a des journalistes, des groupes de presse que je serais prêt à super follow sur Twitter pour soutenir leur travail. Moi, je suis pas comme certains qui rejettent complètement Twitter. Je reconnais que Twitter a des parties toxiques et qu'il faut souvent faire le ménage pour éviter au maximum la toxicité de Twitter. Mais Twitter, je le dis haut et fort, reste mon réseau social favori parce que justement, il est un peu moins dans l'entertainment et dans le t'as vu le burger que je suis en train de manger. Enfin, il est un peu moins dans les réseaux sociaux du m'as-tu vu. Je trouve encore de grosses sources d'inspiration et de réflexion dans Twitter. Mes pseudos sont différents, c'est donc pour ça que le Discord est tout petit pour toi. Ah, je sais pas, Anne. J'ai aucun souci sur Twitter, mais je suis abonné qu'à quelques comptes, probablement moins de 10. C'est ça, Twitter, faut vraiment faire le ménage dans ce qu'on follow. Et surtout, ne pas aller dans les trending topics. Si vous commencez à partir dans les trending topics, c'est un peu si vous mettiez la tête dans une bouche d'égout, quoi. Vous attendez pas à ce que... attendez-vous à ce que ça pue. C'est clair. En clair, si on s'abonne chez toi et qu'on donne quelque chose, tu fais plus. Mais sinon, tu as changé complètement. Avant, tu ne demandais pas d'argent. Maintenant, en demandant assez souvent dans différentes sortes de manières pour pouvoir soutenir la chaîne. Il faut mettre des ponctuations dans tes phrases. C'est très difficile à lire quand il n'y a pas de ponctuation. Je comprends, mais ça devient un peu embêtant pour nous. Alors en fait, go boss. Je pense que tu vois le problème du mauvais côté. Enfin, tu prends les choses du mauvais côté. Tout ce qu'on fait sur Nowtech est gratuit et restera gratuit. Nos émissions, enfin, gratuit compte de la pub, enfin, vous connaissez le truc sur YouTube, etc. Je sais, vous mettez des adblocks de toute façon. Mais globalement, aucun de nos contenus, aucune de nos vidéos, aucun de nos lives n'est derrière un paywall. Tu n'as pas besoin de payer pour regarder notre contenu. Sauf deux choses. Deux choses qui sont un petit bonus pour les contributeurs. Et, précision, parce que ça, c'est peut-être quand même rare, mais c'est quelque chose qu'on fait, quelle que soit la taille du contributeur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous donne 1 euro, ou quelqu'un qui nous donne 10 euros, ou quelqu'un qui nous donne 100 euros, a les mêmes avantages. On est un peu révolutionnaire là-dessus. Ces deux petits trucs, c'est une heure de live privé le jeudi et l'accès dans Discord à une partie privée pour les contributeurs. Donc, je pense pas qu'on puisse dire qu'on met notre contenu exclusivement pour les gens qu'on paye, quoi. C'est pas vraiment notre truc. Après, certains voient peut-être les choses comme ça. Mais voilà, ça me paraît assez normal quand même pour les gens qui font l'effort de nous donner 1 euro, 10 euros, et pour soutenir la possibilité qu'une chaîne un peu différente, des chaînes qui misent sur beaucoup, beaucoup d'audience, nous, on fait quelque chose d'un peu différent pour qu'on puisse exister. C'est un peu normal de leur donner quand même un tout petit privilège. Je trouve pas qu'on leur donne des trucs disproportionnés, quoi. Bon, après, je vous laisse juger. Hein. Je vous laisse juger. C'est plus une réorganisation de Naotech. Je trouve ça bien de permettre à chacun de soutenir la chaîne par moult solutions. D'accord. Oui, oui. Alors, ça peut paraître compliqué, mais justement, nous, c'est une liberté qu'on vous donne de pouvoir contribuer sur plein de canaux différents. La majorité des gens comprennent que tout travail mérite une rémunération, mais si vous avez des sponsors dans les vidéos, c'est pas assez. Bah, si, très honnêtement, alors, on va être clair, je voulais pas partir sur ce sujet, mais autant qu'on en parle entre nous, quelque part, on pourrait se dire, on fait un business model tout sponsor. Et on ne fait pas d'appel à la contribution. Beaucoup de chaînes le font. Si je continue à penser que la contribution est importante, c'est plus pour des questions de liberté de pouvoir dire merde à certaines marques. C'est-à-dire que ce que nous offrent les contributeurs, c'est plus une part énorme de notre chiffre d'affaires. Mais par contre, ça nous aide pour les salaires, pour payer les gens qui travaillent autour de Naotech. Et on a besoin de cette aide pour pas que les salaires soient 100% conditionnés par le bon vouloir des sponsors. En gros, un mois où j'ai que des sponsors de merde qui me demandent de mettre en avant des produits de merde, je suis pas obligé de leur dire oui sous prétexte que j'ai des salaires à payer à la fin du mois. Parce que je sais que j'ai mes contributeurs qui m'aident. Donc, c'est ça que nous amènent les contributeurs. C'est la possibilité de dire fuck à certaines marques. Et c'est quelque chose auquel je tiens. Voilà. Donc, voilà, c'est la réexplication de pourquoi la contribution existe sur Naotech. Ok, j'ai compris ton message, il n'y a pas de problème, je comprends, tu veux le dire, merci. Vraiment la ponctuation, le dire merci quand même d'avoir répondu, car c'est assez difficile de vous avoir, toi et Guillaume. Je suis assez souvent dans les différentes chaînes chez vous, et souvent Guillaume, il s'intéresse à la photo. Et parfois, il m'évite, pourtant, je suis gentil dans mes messages. Désolé, on n'arrive pas à lire tout le monde. On n'arrive pas à lire tout le monde. On a des exemples de marques refusées. Je ne vais pas les citer, mais on en a refusé pas mal. Je dirais qu'il y a à peu près 30% des sponsors à qui on a dit non. Voilà, pour vous donner un exemple. Merci beaucoup, Chessman, pour ton sub de niveau 1. Merci, Aliug, pour ton prime. On continue quand même avec les nouveautés Twitter, mais c'était intéressant. Hein. On est parti un peu dans les graviers. C'était intéressant de parler de ça. Il y aura également, donc je vous ai parlé du super follow. On verra effectivement si les usagers de Twitter seront enclins à payer $5 par mois pour accéder à des contenus exclusifs de leurs tweetos préférés. L'avenir nous le dira. Il y aura aussi l'arrivée spécifique de pages pour les marques et les sociétés. Ça, c'est quelque chose qui manquait beaucoup sur Twitter. Les nouveaux profils business permettront d'ajouter une adresse, des horaires d'ouverture ainsi qu'un bouton de contact direct. Donc nous, on va s'empresser de le faire, on va vous mettre l'adresse pour venir nous voir, hein, nos horaires d'ouverture et mon numéro de téléphone direct dans non. Mais bon, pour une boutique, pour un restaurant, quand ils pourront réouvrir, etc., ça va permettre, effectivement, ça existe depuis bien longtemps sur Facebook, d'avoir une page dédiée à son business. Et également, les entreprises pourront promouvoir des tweets rapidement grâce à une fonctionnalité Quick Promote. Alors, c'est payant, c'est une manière de faire de la pub sur Twitter pour des produits. Donc, quelque part, là, Twitter est en train de marcher sur les plates-bandes de Facebook, ce qui est une bonne chose. Parce que Facebook, on peut les critiquer sur beaucoup de choses. Ils ont quand même apporté quelque chose d'extrêmement bénéfique, à mon avis. Ils permettent à des toutes petites entreprises, à des restaurants, à des artisans, de faire de la pub. Avant Facebook, le ticket d'entrée pour la moindre petite campagne publicitaire, je parle pas de mettre une annonce dans la presse locale, mais la moindre campagne publicitaire, le ticket d'entrée, il était 10, 15 000 euros. Aujourd'hui, avec un budget de 100 euros, vous pouvez commencer à faire de la pub sérieusement sur Facebook. Ça, c'est quand même quelque chose que Facebook a vraiment apporté au commerce. Et en ça, beaucoup d'ailleurs de commerçants remercient Facebook. Et ça, c'est bien que Twitter permette de le faire de plus en plus facilement aussi. Je préfère avoir un Internet payant avec des abonnements qu'un Internet tout gratuit bourré de publicité. Bah, l'avenir te donnera le choix. Il y a des limites à ta réflexion. Si le bon Internet devient payant et que l'Internet gratuit avec de la pub, c'est juste de la merde, genre presse gratuite d'autrefois, parce que le financement par la pub, il faut faire énormément de volume pour que ça rapporte quelque chose. On va avoir un Internet à deux vitesses. C'est ce qui me fait peur. Il y aura l'Internet des riches, l'Internet des pauvres, un Internet un peu de merde pour les pauvres, avec de la pub de partout, et les gens qui payeront auront un joli Internet avec des articles de grande qualité, des belles vidéos et tout ça. J'ai pas envie qu'Internet devienne ça, personnellement. Mais effectivement, entre les adblockers d'un côté, faire tourner un business sur Internet est quelque chose de compliqué. C'est pas simple. Alors, on entend beaucoup parler des fortunes d'Internet, un peu moins des malfortunes d'Internet. Beaucoup de gens se cassent la gueule. C'est des business models très, très compliqués, Internet. Indirectement, c'est déjà le cas sur les raccordements lui-même. Non, mais bien évidemment, tout le monde n'a pas le même Internet, hein. Donc ça va être intéressant, effectivement. Il y aura aussi l'arrivée de Communities, communauté en français, une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de réseaux sociaux de créer, de rejoindre des salons destinés à favoriser les échanges autour de centres d'intérêt de sujets spécifiques. En gros, c'est la fonction groupe de Facebook. Et c'est bien que Twitter imite Facebook, hein, rentre en concurrence. À voir, est-ce que nous, c'est quelque chose qu'on utilisera? Ça peut être intéressant de vous regrouper. Vous êtes quand même pas mal à utiliser Twitter. Moi, ce qui me saoule un peu, c'est qu'avec la fragmentation des réseaux sociaux, pour avertir tout le monde, pour contacter toute la communauté, on est un peu obligé de communiquer sur tous les réseaux sociaux un peu en même temps. Il y a des gens qui détestent Twitter qui sont pas sur Twitter, donc quand on fait un truc sur Twitter, ils nous disent « Ah, mais moi, je suis que sur Facebook » ou « Je suis là ». Quand on fait un truc sur Facebook, « Ah, non, mais je suis pas sur Twitter. Ah, mais j'ai pas Instagram. Ah, ben... » Moi, je suis pour un réseau social unique, contrôlé par l'État. Ça s'appellera l'ORTF, hein. Toutes les identités seront révélées, empreinte digitale à l'entrée, et il y aura une police des réseaux sociaux. Voilà. Dictature. La solution, c'est Discord. Ouais, mais le pourcentage de notre communauté qui est sur Discord, c'est faible par rapport à notre communauté. J'ai l'impression que le lag vidéo va mieux. C'est peut-être mon PC qui a chauffé, hein. J'en sais rien. Enchaîne le CM à la chaise et c'est bon. Alors, vous n'allez pas nous effaroucher Léo, qui vient d'arriver depuis 2 jours en stage CM chez nous et qui va être traumatisé avant même de commencer son stage. Déjà, il a commencé sur les chapeaux de roue, hein. Voilà, bah regarde, le cardinal de Richelieu, c'est l'horreur Discord, j'y comprends rien. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Jamais. Sauf si on fait un réseau social unique, contrôlé par l'État, avec obligation de s'y connecter. Moi, je dis, vas-y Macron. Macronstagram. le réseau social avec France, voilà, avec France Connect et ton bulletin, ta fiche des impôts directement reliée à ton profil. Ça s'appelle les impôts. Ça serait drôle qu'il y ait des chats sur le site des impôts. Comment puis-je vous aider? Madame, veuillez arrêter de m'envoyer des courriers me demandant de l'argent. Je ne suis pas intéressé par vos services. C'est toujours la lettre que j'ai rêvé d'envoyer aux impôts. Arrêtez de me harceler avec votre publicité. Vos produits ne m'intéressent pas. » Les mots de passe envoyés par la poste. Les mots de passe à gratter. Ce serait très bien, ça. Oh, et me faites pas un procès du vendredi matin. Je sais à quoi servent les impôts. Je suis content de payer mes impôts. On rigole, second degré. Je suis très content de payer mes impôts. Merci, les impôts. Non, mais sans déconner, je suis content d'être dans un pays avec tous les services qui sont offerts et toutes les infrastructures. Comme tout le monde, ça me fait un peu chier de voir parfois le gâchis. Mais globalement, je suis content de payer des impôts. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oh là 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 là. Le jour où tu vas chez le médecin, vous n'avez pas souscrit à l'abonnement, c'est payant, tout à fait. Non, mon yacht, on n'en parle pas. Et avec les tableaux de maître que j'ai mis dessus, mon yacht, il s'appelle défiscalisation. Mais chut, arrêtez de parler de mon yacht, s'il vous plaît. Hein? Talboum, pour ce genre de questions, c'est à la fin de l'émission. Allez, on continue. Mais écoutez, c'est bien pour Twitter. Moi, je suis content. Il y a aussi une fonction autobloc qui arrive. Une fois activée, ça va être vraiment bien. La fonction autobloc, une fois activée sur votre compte, cette option bloquera automatiquement pour vous les utilisateurs qui enfreignent les politiques de Twitter, tout en mettant en sourdine ceux qui recourent à des insultes et des propos grossiers et à des discours haineux. Effectivement, les gens qui se sont déjà pris des remontages de bretelles sur Twitter, si je pouvais les bloquer automatiquement, pas avoir de problème avec ces gens-là. Il est temps que les gens apprennent qu'un gros mot, une insulte sur un réseau social, en DM ou dans un truc, c'est grave. Voilà, on n'insulte pas les gens, quelles que soient les raisons, on n'insulte pas les gens. Et pour avoir pris quelques torrents de boue sur Twitter, si je pouvais auto-bloquer pas mal de gens, moi ça m'arrangerait. Merci beaucoup Jérôme P pour ton Prime. J'ai probablement oublié du monde parce que la fonction qui normalement refresh mais me donne tous les primes dans une colonne ne fonctionne pas ce matin. Merci Sloan Fardel pour ton prime. Merci beaucoup. On continue, il est déjà 8h30 et je n'ai fait qu'un article. C'est une catastrophe, Thérèse. Allez, on fonce. On fonce, mais on fonce avec qualité. Une cour a décidé de contraindre Valve à donner à Apple des informations financières sur 436 jeux différents. Alors, je vous en avais un peu parlé, je crois, en début de semaine. Effectivement, Apple demande, dans son procès avec Epic Games, à faire entrer un troisième larron dans le truc qui avait rien demandé à personne. A demandé à la cour d'obliger Valve à lui donner les résultats financiers de la vente de jeux. Ce à quoi, et vous avez réagi, moi aussi, « Oh, les méchants Apple, le pauvre Valve qui a rien demandé, mais pourquoi Apple fait ça, de quel droit, là là là, révolte, révolution. » Il y a quand même des raisons. En fait, Apple a besoin, dans ce procès, a besoin d'informations substantielles pour ses arguments concernant les définitions du marché. Je fais de la traduction anglaise en même temps. Et les effets de la compétition sur le marché. En gros, ce que Apple, dans sa défense, dans le procès avec Epic, la ligne de défense d'Apple, c'est de dire Epic, y a bien de la compétition avec Valve, et pourtant, bon, Epic s'en est plein, mais c'est le jeu de la compétition. Et que nous, on bloque Valve, on bloque Epic, pardon, c'est notre choix, c'est notre droit, et ce n'est pas un abus de position dominante. En gros, c'est la ligne de défense d'Apple. Eh ben, le juge leur a donné raison à Apple, et donc il contraint Valve à donner un certain nombre de résultats sur combien ça rapporte un jeu, enfin les règles de vente de jeux comme ça. Valve étant le leader, effectivement, de la vente de jeux à distance, dématérialisée. Le juge n'a pas accepté toutes les demandes d'Apple. Apple demandait du data qui datait depuis 2015, et le juge a dit, vous pouvez donner à partir de 2017. Voilà. Ça fait un peu moins de boulot pour Valve. Mais bon, Valve est un peu dégoûté, quoi. Est un peu dégoûté parce que eux, ils disent, ça nous fait quand même beaucoup de boulot. Et puis, on n'a pas tellement envie de communiquer ces chiffres-là à Apple. Mais si le juge l'a dit, Bah, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Valve qui a des fuites. C'est embêtant. Appelez le plombier. Appelez Mario. Apple devrait aussi demander une feuille d'impôt de Trump pendant qu'ils y sont. Ah, ils sont gonflés, Apple. Écoutez, moi, après, j'y connais rien en loi. Je ne sais pas si on a le droit de faire ce genre de truc, de contraindre une entreprise à présenter ses résultats. Mais ce que je sais, c'est que les résultats, en tout cas une partie des résultats d'une entreprise, peuvent être publics ou alors à la demande de certains organismes. C'est souvent ce que je vous dis sur les YouTubeurs. Plutôt que de demander le salaire des YouTubeurs, si vous avez un problème avec un YouTuber, si vous avez un problème avec moi, et vous dites, j'aimerais bien savoir où va l'argent, hein. Est-ce que Jérôme, il gagne pas un petit peu trop d'argent? J'ai des doutes et je trouve que ces pratiques sont cheloues. Ben, vous avez un organisme en France, la répression des fraudes et du truc de la concurrence, là, j'arrive jamais à retenir l'acronyme. Et eux sont habilités à me demander des comptes. Et si un YouTuber, ou moi, ou voilà, un autre YouTuber, vous voulez savoir exactement... ben, il faut contacter un organisme qui a le droit d'éplucher les comptes. Mais après, les youtubeurs et n'importe quelle société n'a absolument pas à vous rendre public ses comptes. Oui, la DGCCRF, exactement. Donc vous avez des moyens, mais simplement ne croyez pas que n'importe quelle entreprise a le devoir de publier ses résultats et de vous donner ses résultats. Ça fait partie de sa vie privée d'une entreprise. Après, il y a des organismes qui peuvent aller voir les comptes des entreprises et vous pouvez les activer. Exactement. Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes. Voilà, c'est un organisme de l'État qui est à votre service. Si vous avez des soupçons de fraude, de malversation ou ce genre de choses. Obligé de rendre public si tu gagnes plus d'un certain montant. Je ne suis pas certain. Alors, il y a des choses que tu es obligé de publier. La stratégie d'Apple, mais à terme, est-ce que ça risque pas de se retourner contre eux? Bah, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à la regarder sur le Apple versus Epic. Et je suis à peu près d'accord avec ce que je disais à l'époque. Ah, c'est la DDP. C'est la DDPP maintenant, Direction départementale de la protection des populations. Ah, d'accord. J'avoue que je ne suis pas spécialiste des arcanes de l'État. Allez, on continue dans les articles. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, ça commence à venir. Apple va afficher l'indice de réparabilité des iPhones et des Mac. Je vous rappelle que l'indice de réparabilité est maintenant obligatoire. Alors, il y a encore une souplesse jusqu'à janvier de l'année prochaine, le temps que les marques puissent tous les afficher. Mais ça y est, Apple rend les indices de réparabilité disponibles. On le voit hein, sur le site, sur l'App Store. Par exemple, un iPhone 12 mini 64 Go blanc, et ben un indice de réparabilité de 6. Par contre, un iPhone 11 64 Go jaune, lui, a un indice de réparabilité de 4,6 sur 10. Donc, moins bon en réparabilité, hein, l'iPhone 11 que l'iPhone 12. On le voit aussi, par exemple, sur le MacBook Air, qui a un indice de réparabilité de 6,5. Mais un MacBook Pro, lui, a un indice de réparabilité de 5,6 sur 10. Donc ça y est, et ça c'est vraiment une bonne chose, les indices de réparabilité deviennent obligatoires et commencent à être publiés par les marques. On apprend, alors je vous donne quelques chiffres, hein. Les iPhone 12, ils ont 6 sur 10, les iPhone 11, 11 Pro, 4,6, le plus bas est l'iPhone 11 Pro Max avec 4,5, tout comme l'iPhone 10R d'ailleurs, Les iPhone 10S Max, 10S affichent une note respectivement de 4,6 et 4,7. Ce n'est pas des très bons chiffres hein, chez Apple hein, de réparabilité. L'iPhone SE 2, par contre, s'en sort mieux avec 6,2. Les iPhone 8 et 8 Plus enregistrent un score de 6,6. Donc, c'est a priori les plus réparables. Le modèle le mieux noté est l'iPhone 7 avec 6,7. D'indice de réparabilité. On avait fait des articles sur comment c'était calculé, mais je vous le rappelle, je vais vous montrer le tableau. Il y a tout un tableau de critères sur les indices de réparabilité qui vont de la durée de disponibilité de la documentation technique, la facilité de démontage, les outils nécessaires, les caractéristiques de fixation, la durée de disponibilité des pièces, durée de disponibilité de plusieurs pièces, prix des pièces de la liste 2 au prix de l'équipement neuf, l'information sur la nature des mises à jour, l'assistance à distance sans frais, la possibilité de réinitialisation logicielle. Tout ça donne un score sur 100 qui donne ensuite un indice sur 10. Voilà. Euh, 6,6, c'est médiocre. En dessous de 5, oui, c'est pas bon. Hein. En dessous de 5, c'est vraiment pas bon. 6, c'est pas mal, mais peut faire mieux, quoi. Moi, mon indice de réparabilité est de 0. Hein. Dès qu'il y a une pièce qui tombe, pff, il y a tout qui fout le camp. Voilà, donc c'est une bonne chose. Mais là, vous allez dire, ouais, sympa Apple, c'est bien de le mettre. Mais oui, mais il y a une petite entourloupe que Apple a fait. C'est que c'est disponible sur leur site, mais ce n'est pas disponible sur la liste globale. Car je ne le savais pas, mais il y a une liste globale. Merde, il est où le lien ? Où d'autres marques sont, et ça va être intéressant de comparer. Vous allez voir notamment que Samsung tire bien son épingle du jeu cette année en termes de réparabilité. Attendez, j'essaie juste de retrouver. J'avais un tableau. Merde, où est-ce que je l'ai foutu ce tableau ? Où est-ce que je l'ai foutu ? L'indice de réparabilité. Ah, liste officielle, voilà. On va regarder ensemble la liste officielle. On voit bah, les notes des Xiaomi. Hein. Là, vous avez. Qui sont pas mal, hein, 7,1, 7,0, 6,9 pour certains Xiaomi. Mais globalement, alors, une précision importante, c'est les constructeurs eux-mêmes qui calculent leur taux de réparabilité qui ensuite peut être contrôlé. Donc, ils n'ont pas intérêt à mentir. Il y a des critères très exacts hein, pour calculer le taux de réparabilité, mais c'est quand même les marques qui font elles-mêmes leur indice de réparabilité. Bon, après, je pense qu'elles n'ont vraiment pas intérêt à déconner avec. Donc là, on a beaucoup de Xiaomi, Samsung. Et là, ça devient hyper intéressant. Par exemple, le Note 20 est à 8,1. Donc un bon indice de réparabilité quand même. 8,2 pour le Galaxy S21 Plus 5G. 8,8 pour le Crosscall Core M4. Ouais, ça, c'est des hardphones. Ça doit être des trucs incassables là. Crosscall qui fait ça. On regarde, on va voir un peu sur les autres pages pour voir les plus hauts scores. 8. Ouais, à partir de 8, je crois que ça devient pas mal. Hein. Et alors 10, vous pouvez tout. Il est en Lego le truc. 8,7 pour le Fairphone. FP3+, c'est probablement la question que vous l'aviez posée. Comment on vérifie qu'elle ne déconne pas ? Ils sont contrôlés hein, par des organismes. Hein. C'est eux qui calculent leur indice, mais c'est contrôlé. Je vais vous dire par qui c'est contrôlé, il faut que je retrouve l'info. Mais a priori, le Fairphone a probablement l'indice le plus haut. Il n'y a pas tant de comptes de marques que ça hein, qui se sont mis pour l'instant. Et maintenant, j'ai le tableau qui bug. Il y a un site, manifestement, donc, qui s'appelle indice-réparabilité.fr, que je refresh, où vous avez pour l'instant 90 smartphones qui sont publiés dessus. Le détail de l'indice, je vous... Alors, par marque, je ne l'ai pas. Ça doit se trouver, hein, Tic Tac Oumi. On va voir si tu cliques sur un smartphone. Mais là, leur site est en panne. Donc, on va dire l'indice de réparabilité du site de l'indice de réparabilité. On leur met un 2 sur 10. Hein ? Il ne marche plus, leur site. Tout le monde... Hey, on a pété le site de l'indice de réparabilité ? Non, quand même pas. C'est, bah justement, alors voilà, merci Aliouk, c'est contrôlé par la DGCCRF. On a fait cracher le site de la réparabilité. Alors, est-ce qu'on a le détail? Eh ben voilà, tu vois, suffisait de le demander. On a le détail, par exemple, pour le Wiko Y61, qui a un indice de réparabilité de 6,8. Nous avons le détail... De la note. Donc, vous pouvez contrôler. C'est bien, ça. C'est plutôt bien. J'aurais préféré un organisme indépendant. Attends, c'est l'État. C'est le truc... On déconne pas avec la DGCCRF. Hein. Généralement, quand elle arrive, tu déconnes pas, quoi. C'est un peu comme un contrôle fiscal, quoi. Ils repartent rarement les mains vides. Merci beaucoup Camille pour ton sub niveau 1, deuxième mois d'abonnement. Merci aussi à Berzen pour ton prime, huitième mois d'abonnement. Mais c'est une très bonne chose. Et on voit justement qu'Apple n'a pas des scores de réparabilité extraordinaires. C'est peut-être quelque chose sur lequel ils vont devoir travailler, Apple, à avoir de meilleurs scores de réparabilité. Moi, ce que je regrette juste, c'est qu'on est... Je ne sais pas dans quelle mesure... Enfin, je trouve, par exemple, que les mises à jour, la durée des mises à jour, combien d'années la marque s'engage à faire des mises à jour, devrait être... En fait, il n'y a pas que la réparabilité. J'aimerais un indice de résilience, en fait, de mon produit. Parce que si mon produit est très réparable, mais je peux pas installer une mise à jour de sécurité dans 3-4 ans, bah, je trouve qu'il devrait y avoir une pénalité. Là, c'est vraiment... Alors, il y a quand même un truc sur les mises à jour, mais je pense qu'on aurait pu faire un indice un peu plus global, quoi. L'espérance de vie du téléphone, ouais. Chaque fois que j'ai sollicité la DDP, maintenant on va dire, ils n'ont jamais bougé leur cul. Pourtant, ils avaient l'air, alors j'ai jamais essayé, hein, mais ils avaient l'air de dire qu'ils avaient un site. Alors bien sûr, tout dépend s'ils reçoivent masse délations, je sais pas, mais je crois qu'ils ont un site pour faire ça. Mais c'est vrai que je les ai jamais contactés, hein, moi. Qui te dit qu'ils ont envie que leurs produits soient réparables facilement? Ça justifie un passage à la caisse pour l'Apple Care. À Berzen, je pense que le monde est en train de changer et Apple, contrairement à ce que tu crois, fait partie des premiers à l'avoir compris. La sensibilité à la durabilité de son smartphone et aujourd'hui, et c'est un fait, hein, là, c'est pas un côté fanboy ou quoi que ce soit, Apple fait aujourd'hui les smartphones les plus résilients dans le temps. Alors, ils sont pas très réparables, mais ils sont mis à jour longtemps et ils sont quand même très résilients. Je pense qu'Apple veut aller dans ce sens-là. Parce que contrairement à ce que tu crois, je pense à Berzen, Apple veut faire plus d'argent en vendant des services qu'en vendant des smartphones dans un futur pas trop lointain. Leur chiffre d'affaires actuellement dépend trop de la vente hardware et ils veulent faire une bascule. Parce que ça, Apple n'y peut rien. Les gens s'intéressent de moins en moins aux smartphones, rachètent des smartphones de moins en moins longtemps. Ils ont très peu d'agents sur le terrain, par contre, ils doivent se focaliser sur les gros dossiers, pas toutes les plaintes qui arrivent une fois sur son établissement. Bah, disons que si vous envoyez un truc, on aimerait que vous alliez contrôler les comptes de Nowtech, hein? faut peut-être que vous soyez plusieurs à le faire pour qu'il se bouge. C'est clair. Voilà. Jérôme, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un type qui explique qu'avec Lineage OS, Graphene ou Calyx OS, on pouvait avoir des mises à jour plus longtemps sur les téléphones et Android. Cette personne a raison. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Cette vidéo ne... Alors, je vais vous le dire honnêtement, la vidéo de Guillaume qu'on a sortie hier ne fait pas assez de vues par rapport à l'importance qu'elle a. Je sais que c'est pas une vidéo facile. Ah, c'est sûr que c'est pas une dégustation de burger ou une fiche de spec de smartphone. C'est une vidéo importante. Je vous conseille, on apprécierait que vous la partagiez à des gens autour de vous. Beaucoup de gens comprennent encore mal l'intérêt de protéger sa vie privée et ne voient ça que d'un côté individuel. Ils ne comprennent pas que la protection de la vie privée, en tout cas de se poser des questions sur la vie privée, est important pour empêcher la polarisation de nos sociétés. Pour moi, c'est le péril le plus grand. On s'en fout finalement que la pub ciblée, c'est pas un truc très grave. Dans l'absolu, la pub ciblée. Le problème de la collecte de données et sur la vie privée est plutôt par des... Le fait, c'est que ça aboutit à des algorithmes qui ont tendance à nous ranger dans des cases et à cloisonner nos sociétés. Et c'est ça qui est très dangereux. La vidéo s'appelle « Android sans Google, mon avis après un an ». Et si vous ne l'avez pas vue hier... Je vous conseille vivement d'aller la voir tout de suite après ce mug. Un indice de durabilité des pièces ne serait-il pas plus pertinent? Je pense que l'indice de réparabilité est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est Véluna, le prix des pièces détachées est compris dans l'indice de réparabilité. Allez voir, allez vous renseigner. Quand sort la deuxième vidéo de... On va essayer la semaine prochaine. Elle est en cours de montage, mais elle n'est pas finie, la deuxième vidéo de Guillaume. Où il vous explique, vraiment, il a fait un tuto qui va être très long, comment enlever Google de votre Android. Guillaume est un peu obsédé sur ces sujets, mais je pense qu'il a raison de l'être. Ça ne veut pas dire que vous devez tous enlever Google, mais... Ça sensibilise tout le monde à quel point des sociétés comme Google, des sociétés comme Facebook, etc., se sont insinuées dans nos vies. Et que vous avez beau vous dire « Oh, mais je m'en fous, j'ai rien à cacher », ça, il faut vraiment, je pense, ça, je le dirais à Guillaume, il faut qu'on refasse une vidéo sur pourquoi c'est stupide de dire « Je n'ai rien à cacher ». On va vous expliquer ça. Je sais que c'est le premier réflexe qu'on a. Ah, mais j'ai rien à cacher, donc ils peuvent bien me prendre des infos. En fait, le raisonnement, il n'est pas là. On va probablement refaire une vidéo là-dessus. Non, allez voir la vidéo de Guillaume, justement, pourquoi acheter un Huawei n'est pas la solution non plus. Hein, c'est parce que ça s'appelle tomber de Carib en Scylla. J'ai adoré ce qu'a dit Guillaume, enfin ce que Snowden a dit hier, quand on lui a demandé s'il aimait bien Signal, il a dit « bah écoutez, je suis pas mort ». Dans la part de Snowden, et qui vous dit « j'utilise tel logiciel de messagerie et pour l'instant je suis pas mort », on comprend. C'est un mec, il y a beaucoup de gens qui veulent lui faire la peau, hein, l'empoisonner, lui tirer une balle dans la tête, etc. Beaucoup de services secrets sont à ses trousses. Et le fait qu'ils disent, tel réseau social est pas mal, la preuve, je suis pas mort, c'est comment dire, c'est un gage de qualité, quoi. C'est un gage de qualité. Ouais, ça ferait une super campagne de pub pour Signal. Bon, allez, on continue. Les prochains Mac, iMac pourraient être disponibles en divers coloris. Ça suppute sur les annonces d'Apple qu'on devrait avoir en mars. Beaucoup disent qu'on aura un nouveau design de l'iMac qui pourrait ressembler à ça. Des bords carrés, des couleurs comme à la fameuse époque, c'était quoi, les G3, je crois, de... Les Mac bonbons, oui, l'iMac G3. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, les Macs en forme de bonbons, de toutes les couleurs, qui étaient, vous vous en rendez pas compte, les plus jeunes, mais c'était révolutionnaire. Je vais vous expliquer pourquoi la couleur était révolutionnaire. À l'époque, l'informatique, c'était beige. Tout était beige. Les coffrets, tous les coffrets étaient beige. En gros, si tu sortais pas un ordinateur, et même Apple faisait des ordinateurs qui étaient beige. Si tu sortais pas un ordinateur qui était beige, regardez la couleur des premiers Mac, la couleur des IBM, la couleur des Atari, des Commodore. C'était beige. Il y avait très peu. Amstrad avait tenté le noir. Spectrum aussi, il y avait du noir, mais globalement, si, il y avait un peu de noir, mais le beige était quand même, ouais, beige, un blanc, un beige qui jaunit en plus, un beige dégueulasse. C'était ça qui rendait ton ordinateur pro. Voilà, tu mets. Et Apple est la première marque, alors en tout cas la première marque très visible, parce que je me souviens qu'il y avait eu quelques tentatives de boîtiers de couleur, c'était le début des modeurs et tout ça, mais bon, on va dire la première marque à grande échelle a balancé des ordinateurs qui étaient multicolores. Oui, Next était noir. C'est tout à fait vrai. J'en ai parlé du ZX80. Mais ils ont sorti, je me souviens, les fameux G3. Il y en avait même avec des fleurs. Waouh, quand on a vu ça débarquer, moi je m'en souviens parce que j'étais stagiaire à l'époque, si je me trompe pas, où j'avais commencé à bosser, je sais plus. Et quand on a vu ces Macs débarquer, tout d'un coup, sur les bureaux, il y avait de la couleur, il y avait de la vie. C'était assez fou. Hein. C'était assez fou. C'était à cause du traitement anti-incendie des plastiques, cette couleur beige. Merci de l'info, c'est pénible, c'est identifiant. J'aime beaucoup ton pseudo. Ah ouais, il y avait le G4 tournesol. En 2002, tout à fait. Même aujourd'hui, je ne comprends pas le design des PC, par exemple, l'omniprésence du RGB pour les boîtiers joueurs. Il y a des gens à qui ça plaît. C'est vrai que ça serait cool que ça revienne. C'est vrai qu'on est revenu à une certaine sobriété. Est-ce que des iMac de couleur, vous... Tiens, on va faire un petit sondage, parce que j'ai le temps, hein, je suis tellement en retard que j'ai le temps. Il y a un moment où le temps n'a plus d'importance. Hop. Alors, oubliez que c'est Apple et que vous les détestez. Mais on va mettre ordinateur. Ordinateur. Avec de la couleur. J'achète. J'achète pas. On parle pas des LED hein, de couleur. Hein. Vraiment la couleur du métal quoi. Hop, je lance le sondage. Et à la fin, les gens prennent le noir ou le blanc. C'est souvent le cas. Hein. Parler avec n'importe quel vendeur de vêtements, il dit. Alors, ce que va vous dire un vendeur de vêtements, c'est qu'il faut afficher plein de couleurs dans la vitrine. Mais le résultat, les gens rentrent pour la couleur et ressortent avec du beige, du gris et du blanc. Donc, ordinateur couleur, qu'est-ce que ça donne le sondage pour l'instant? Vous êtes 67% à acheter des ordinateurs s'il y a de la couleur. En orange et rose, ils claquent. J'adore, mais ça ira pas chez moi. Non, mais tout à fait. Par contre, on est quand même toujours obligé de proposer de la couleur. Parce que si vous proposez que des vêtements en beige, en noir et en blanc, les gens rentrent pas dans votre boutique. C'est ça qui est intéressant, en fait. On en est à... Ouah, il y a pas mal de j'achète pas hein, quand même. Hein. Vous êtes 42 à ne pas vouloir acheter des ordinateurs où il y aurait de la couleur, enfin qui serait en couleur. Vous êtes quand même pas mal. Non, on parle pas de l'écran, Lord Tamo. Faut regarder l'image. On parle, voilà, d'ordinateurs qui seraient soit teintés dans la masse quand c'est du plastique, soit avec une anodisation si c'est du métal. Ce que je vous rappelle, contrairement à ce que certaines personnes croient, on ne peut pas teinter du métal dans la masse. Vous ne pouvez pas injecter de la peinture dans le métal. Par contre, on peut le faire dans le plastique. Pourquoi pas des couleurs sobres, classe, marron texturé. Je colle des guirlandes Jackie Touch pour décorer mon PC. Des miniatures noir et blanc, on n'a jamais essayé, mais il y a une miniature qui a bien marché où j'étais très minimaliste façon Apple sur un fond blanc. Donc ça pourrait marcher. Il y a des chaînes YouTube qui font des vignettes noir et blanc. T'as pas eu le sondage? Bah normalement. Alors le sondage, normalement. Comment ça se fait que t'aies pas le sondage? Ouais, peut-être sur certains navigateurs ça marche pas. Je pense qu'il faut aussi des trucs genre cookies et tout pour que les sondages apparaissent chez vous. Donc j'achète, vous êtes 56% à acheter la couleur et vous êtes 44% à ne pas acheter la couleur. Voilà le résultat du sondage du jour. On verra ce que Apple annonce à ce niveau-là. Allez, on termine. Je voulais vous montrer un truc assez dingue. Alors, je crois que je vais vous montrer la vidéo et je vais attendre vos réactions. Je vais vous montrer cette vidéo et je vais lire vos réactions. Je vous montre. Et bien sûr, elle ne se lance pas. C'est un fail. Attendez. Hop, on va revenir en arrière. Voilà. Alors, je ne mets pas le son, parce que de toute façon, je ne peux pas. Mais que fait cette fille? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est très bizarre. Et maintenant, regardez le résultat. C'est dingue. Alors bon, moi, je suis une personne de l'image, donc je suis sensibilisé à ça. Je trouve ça génial. En gros, la génération Z, fan de TikTok, plutôt que de se faire chier comme nous avec des logiciels de montage à faire des cuts et tout, ils ont tellement intégré les codes visuels de TikTok. Alors, je sais, pour les vieux boomers, les générations X et les millennials, ils vont dire « Oh là là, mais TikTok, ça va dans tous les sens, ça donne la nausée, j'y comprends rien. » On est vraiment des vieux cons, et je m'inclus dedans, sinon je me permettrai pas. Mais c'est vrai que le langage, la grammaire visuelle de TikTok, c'est énormément de cuts, avec des changements d'angle. Je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, dans la vidéo, on fait des cuts. Où on utilise deux caméras, etc. Mais bon, le reste, que le langage visuel de TikTok, c'est énormément de changements d'angle. Et elle fait ça uniquement en appuyant et en enlevant son doigt du bouton enregistrer. Elle a tellement bien intégré le montage et comment ça se passe qu'elle n'a plus besoin de logiciel de montage. Moi, je trouve ça magique et c'est un putain de skill. C'est un putain de skill. Oui, elle fait des pauses. En fait, l'idée, c'est de savoir. Et je trouve que ce que ça a de beau, c'est que ça renoue avec les origines du cinéma et un certain cinéma de Méliès et des trucages manuels ou du cinéma russe des années 60 où les trucages étaient manuels. Et il y a une beauté dans ce travail parce que là, on va dire, l'image se rapproche de la magie. On joue finalement sur l'illusion d'optique que permet la vidéo. Regardez les premiers films de Méliès et tout ça. J'y vais à fond. Je pense que c'est génial de voir une génération qui s'accapare un média qui avant n'appartenait qu'à des gens très fortunés et très peu de gens dans le monde et qui en acquiert la grammaire et les codes. Et il est fort probable que cette génération Z, on est dedans des réalisateurs de demain qui auront intégré ces codes dans la réalisation de contenu. Alors, si vous voulez aller plus loin, il y a carrément des tutos hein, sur YouTube entier où, justement, on vous apprend à faire des transitions. Rien que, vous voyez, quand le REC s'allume, donc il faut avoir un truc, un bouton ou une commande pour allumer ou éteindre le REC de votre smartphone. Et simplement, avec des gestes devant son smartphone, arriver à faire des effets. Et regardez, vous voyez, on voit le résultat. Boum, on a l'impression que sa propre tête, il l'a envoyé, hop, ça c'est le coup classique, je fais passer la cape devant moi, je change de tenue, je mets mon blouson, et hop, et au montage, ça vous donne ça. Voilà, plein de petits effets. Moi je trouve, on renoue avec un certain cinéma, et je le dis. Et c'est vrai que jusqu'ici, pour faire ça, bah, on prenait des logiciels de montage un peu compliqués. Et moi, ce que je trouve absolument génial, c'est de voir à quel point ils arrivent à faire tous ces trucs manuellement, sans se faire chier avec du montage. Instant culture, Georges Méliès. Ah oui, vous connaissez pas Méliès ? Ben, pour comprendre Méliès, parce que c'est quelque chose d'important, je vais faire ma petite page culture. Dès la naissance du cinéma en France, il y a eu les deux tendances qui donnent l'audiovisuel d'aujourd'hui. Vous avez eu les frères Lumière, pour qui la caméra est là pour montrer la réalité, l'entrée du train en gare de la Ciotat. Donc, on va dire la partie documentaire, télé, l'image qui montre le monde. Ça, c'est le courant Lumière. Et vous avez Méliès qui a fait finalement de la magie tout de suite. Il a compris le potentiel en éteignant la caméra, en faisant disparaître un personnage, en faire revenir machin, de faire de la magie de l'image. Et quelque part, et c'est ça la beauté de l'image. Je ne parle pas que du cinéma parce que les Lumières et Méliès pour moi sont la source. Méliès qui a terminé dans la misère. Voilà, un merveilleux homme, beaucoup trop en avance sur son temps. Mais c'est... une expédition... Putain, Amazon, tu me fais peur. Voilà, la beauté de l'image vient de ces inventeurs. C'est pas les seuls inventeurs, hein, je sais. Il y a beaucoup de polémiques sur le cinéma, etc. Mais on va dire les deux... Les grands hommes français qui ont mis au point une cinématographie, cinématographe, les frères Lumière et Méliès qui s'est emparé, il n'a pas inventé la caméra, mais il a inventé une façon de filmer, c'est merveilleux. Martin Scorsese a fait un très beau film sur Méliès. C'est Marvel qui a inventé le cinéma. C'est Méliès qui a... Ah oui, non, attends, non, je comprends pas ce que vous dites. Méliès est le premier qui a envoyé une fusée sur la Lune. Certes, virtuelle, mais tout à fait. Il l'a fait rêver tout de suite. Documentez-vous sur Méliès, c'est merveilleux. Et vous verrez que je n'exagère pas, je pense, quand je compare... ce que font ces jeunes avec leur smartphone au cinéma de Méliès et la créativité. Et vous voyez, c'est vraiment on peut critiquer TikTok. Moi, j'y passe pas beaucoup de temps sur TikTok. Peut-être pas. J'y découvre des trucs merveilleux. Mais bon, moi, je suis une génération X. Je suis trop en retard par rapport à tout ça. Mais je trouve ça beau, quoi. Je trouve ça beau de voir la créativité naître. Méliès et les Lumières avaient une idéologie nauséabonde. On ne peut pas effectivement dissocier les auteurs de leurs œuvres. C'est des débats compliqués. Il faut peut-être les resituer dans leur époque aussi. C'est Chuck Norris qui a tout inventé de toute façon. C'est clair. Bref, voilà, si vous voulez apprendre à faire ce type d'effet, Et alors moi, ce qui m'a fait un peu rire avec cet article, c'est que, et c'est pas une critique, hein, mais il y a une personne hier dans la vidéo de Guillaume qui dit « Mais pourquoi vous arrêtez pas de changer de caméra? C'est fatigant. » Mec, va surtout pas sur TikTok. Et pourquoi on change de caméra? Pourquoi on fait des cuts? Je vais vous expliquer. Parce que les gens se disent « Bon, t'as qu'à laisser tourner ta caméra comme dans un live. » Il faut comprendre une chose, c'est que l'œil a besoin d'être en mouvement constant et a constamment besoin d'être excité. Rien de sexuel. Mais l'œil a constamment besoin de stimuli. Parce que l'œil, sinon, transmet une info hyper rapidement au cerveau, je m'emmerde. Et si on ne stimule pas l'œil, la plupart du temps, l'œil va dire « Merde, il n'y a rien d'intéressant de nouveau à regarder là, je m'emmerde. » Donc, il va commencer à vous distraire du fond de la vidéo. Vous n'allez plus écouter parce que votre œil transmet au cerveau le côté « Je m'emmerde. » Alors, vous allez me dire « Oui, mais Jérôme, là, en live, il n'y a pas de changement de caméra et tout. » C'est pour ça que le live n'est pas un exercice forcément facile parce que je dois continuer à capter votre attention rien qu'avec l'audio. C'est pour ça que, pour moi, les lives, c'est plus de la radio filmée que de la vidéo. Voilà. Et du coup, TikTok, dans une génération Z très rapide, va encore plus loin dans ce type de montage très assuré, qui, je comprends, est fatigant pour les plus vieux. Mais il faut comprendre que c'est la nouvelle grammaire visuelle. Alors, je sais que nous, dans nos vidéos, on y va doucement, on n'adopte pas toute la grammaire visuelle. Moi, ça me fatigue les zooms et les dézooms constants. En fait, au bout d'un moment, ça me donne le mal de mer. On en met quand même, on essaye de doser. Ah oui, mais non, tu confonds. Le plan séquence, il se passe plein de choses à l'image. Un plan séquence n'est jamais un plan immobile. En fait, le mouvement peut venir de cut, mais le mouvement peut venir aussi de mouvement de caméra, peut venir du mouvement de tes acteurs. Il y a plein de manières de créer le stimuli visuel dans un film, dans une vidéo. Le cut n'est qu'un des moyens de créer un stimuli. Mais si ta caméra se balade de partout, ou si ton sujet arrête pas de bouger et dans un cadre fixe, il fait un mouvement dans le cadre fixe, c'est un stimuli visuel en fait. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vidéo, c'est l'art du mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement et de stimuli visuel, l'œil s'emmerde. Autant faire de la photo, quoi. Le problème de TikTok, c'est la sexualisation des contenus. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Il y a d'autres problèmes avec TikTok. Moi, je parle du TikTok, on va dire, positif, créatif. Attention. Autant de faire de la photo. Non, mais ne le prenez pas mal, les photographes. Je fais juste un petit pic. Si vous connaissez la chaîne... comment il s'appelle? Qui est à la recherche de la caméra parfaite. Et qui traite les photographes de losers. Et ça me fait marrer à chaque fois. Comment il s'appelle déjà? C'est pas The Perfect Camera. Ah, j'ai oublié sa chaîne. Je vais vous la retrouver. Je vais vous la retrouver dans mes abonnements. C'est un Canadien. Camera Conspiracies. Que je vous ai souvent conseillé. Et Camera Conspiracies, quand lui, il est obsédé par la vidéo qu'on fait avec les appareils photo. Et donc lui, il dit, mais pourquoi on fait encore des appareils photo pour les photographes? Ce qui a l'art de prendre à rebrousse-poil les photographes qui sont souvent assez premier degré là-dessus. Et donc, il les traite de losers et c'est très drôle. Mais moi aussi, j'adore la photographie. C'est pas du tout la même chose à photographier la vidéo. J'adore prendre des photos. C'était une plaisanterie. Comme vous bougez beaucoup, vous ne... Ah non, mais c'est pour ça que je parle avec mes mains et que je sautille. Hein. C'est des stimulés visuels. Ne croyez pas que c'est juste des tics nerveux chez moi. Hein. Tout ça, c'est très travaillé. Je pense chaque mouvement. Hein. Vous doutez bien que personne n'est comme ça naturellement. Ben, Anthony, quelque part, je suis d'accord avec toi. Certains YouTubeurs cut trop, mais ils font comprendre que plus ils cut, en fait, plus leur audience est jeune, ou plus ils veulent attirer une audience jeune, plus il faut cutter. La génération Z, elle, c'est pas 10 secondes à l'image où elle commence à s'emmerder. Il lui faut un stimuli visuel toutes les 1 à 2 secondes. Trop de second degré, tu vas perdre des gens. Non, mais je sais, t'as résumé ma vie. Jérôme, on est un petit peu sur du 9h12, là. Ok, bah, on continue. On continue et on va lancer la cerise sur le croissant. Et puis voilà, je vais même pas faire de sponsor. Vous savez que les sponsors, c'est vous. On a bientôt, et ça va être cool, un nouveau sponsor qui arrive dans l'émission. Vous découvrirez ça bientôt, je crois même lundi. Putain, il faut qu'on bosse dessus d'ailleurs. Allez, on lance la cerise sur le croissant. Petite histoire que j'ai trouvée fort jolie, parce que c'est vrai qu'on est toujours là à parler de l'Apple Watch qui sauve des vies en alertant l'hôpital, en alertant la personne qui a un problème de santé. Ben cette fois, c'est le Google Pixel. Le Google Pixel qui a sauvé la vie d'un homme. Donc, il n'y a pas que l'Apple Watch qui sauve des vies. Et là, c'est le propriétaire d'un Google Pixel qui était à bord d'une pelle mécanique dont il se servait pour réaliser des travaux sur sa terrasse. Cependant, le véhicule est tombé. Donc probablement dans un fossé ou dans une pente, avant de se retourner dans un fossé, et l'homme n'était plus en mesure de sortir de l'appareil. Il s'appelle Chuck, mais pas Chuck Norris, parce que Chuck Norris se serait sorti de cette situation sans Google Pixel, mais lui, ce n'était que Chuck Walker. Putain, c'est drôle quand même. C'est Texas Walker. Oh, je sais plus. Bref, allez, arrête, Jérôme. Il explique avoir perdu connaissance suite à la violence du choc. Lorsqu'il s'est réveillé, il a tenté d'appeler au secours avant de réaliser qu'il était déjà en communication avec le 911, qui sont les urgences aux États-Unis. En effet, le Google Pixel 4 XL qu'il avait avec lui a détecté la chute et automatiquement contacté le numéro d'urgence. Sa localisation a été transmise aux secours, qui sont arrivés quelques minutes plus tard. Résultat, il a eu 7 côtes cassées et 4 vertèbres thoraciques cassées. Aïe. Mais malgré ses blessures importantes, il évoque le rôle clé et la fonctionnalité du smartphone. La caserne des pompiers était au minimum à 11 minutes de notre propriété, donc je suppose que j'ai perdu connaissance pendant au moins 8 minutes. Google avait pendant ce temps-là déjà mobilisé les services d'urgence. Il ajoute que si la fonctionnalité n'avait pas été activée, il aurait certainement attendu durant de longues heures, car aucun de ses proches n'attendait de ses nouvelles avant un moment. Alors, vous dites, est-ce que ça marche avec n'importe quel smartphone? Oui, c'est Walker Texas Ranger. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Alors, il faut que cette option soit préalablement activée sur votre Google Pixel 4. Donc, je crois pas que ça existe sur tous les smartphones. Ça s'appelle la détection d'accident de voiture. Détection d'accident de voiture. Et il faut l'activer manuellement. Donc, ça doit, effectivement, avec l'accéléromètre, en fait, détecter les chutes rapides. C'est, dans cette situation, Chuck Norris aurait sauvé le Google Pixel, tout à fait. Et l'appel mécanique en même temps. Voilà, moi je trouve que c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Sur Apple, on a déjà ça avec l'Apple Watch. Mais justement, alors les iPhones ne le font pas, mais les Apple Watch le font. Mais c'est vrai que là, merde, Apple, maintenant, tu vas nous mettre des détections de chute aussi sur les iPhones, puisque Google le fait. Merde, quoi. À partir de quelle série d'Apple Watch à détection des chutes? Je voudrais pas dire de bêtises. Je dirais que c'est depuis l'Apple Watch 3, non? Qu'il y a le détecteur de chute. 3 ou 4. Je voudrais pas dire de bêtises. Peut-être 4, ouais. T'as 10 secondes pour annuler l'appel. Oui, tout à fait. Si jamais ça se déclenche par hasard, il va pas appeler les urgences tout seul. Il vous dit « Allô, allô, est-ce que vous m'entendez ?» Ton Apple Watch ou ton Google Pixel va te dire « J'appelle les urgences, réveillez-vous. » Elle va essayer de te réveiller hein, déjà. Que ça soit l'Apple Watch ou Google Pixel, ils vont essayer de te réveiller pour savoir si c'est une vraie chute ou pas une chute. Et donc, si tu dis « Non, non, j'annule l'appel aux urgences », ça appellera pas les urgences, ouais. C'est sur la 4. Merci, merci Apple Master. Bon, si c'est Apple Master qui le dit, je n'ai rien à dire. Voilà comment ça marche, la détection de chute. Moi, mon Oppo, il rentre juste sa caméra quand il détecte la chute. Excuse-moi, mais ça me fait beaucoup rire. Oui, alors, je me suis cassé la gueule avec ma pelleteuse. Là, je suis tombé dans un fossé. Mais heureusement, la caméra selfie, elle s'est rétractée tout de suite. Merci. Merci. J'imagine trop la pub, quoi. Putain, ça a protégé ma caméra selfie. Aïe! C'est le mec qui fait... j'ai oublié, j'ai tout cassé. T'as déjà perdu connaissance, t'es tombé, ton Apple Watch n'est pas déclenché. Ah, merci. En tout cas, ça veut dire que c'est pas infaillible. Est-ce que tu l'as bien activé? Parce qu'attention, il faut l'activer hein, quand même à la détection de chute dans la config de ton Apple Watch. Je le savais pas, mais il faut quand même le détecter. Il faut quand même l'activer, je crois. Il faudrait une détection de pain dans la tronche dès que tu prends un coup en manip, off activation de la cam. Ouais, mais comment on va différencier une bonne matraque d'un coup de poing? Et est-ce qu'ils vont pas trouver une parade? Et justement, je crois pas que ça existe sur d'autres Android que le Pixel, la détection d'accident. Mais à vérifier de votre côté. T'es mal tombé. T'es pas tombé selon les normes Apple. C'est pour ça qu'il a pas à détecter. Hein. Il y a une façon de tomber hein, pour que l'Apple Watch marche. Ça implique quoi comme récolte de données, je me demande. Alors, en tout cas, dans le cas de l'Apple Watch, aucune, hein, l'inspecteur. Puisque ça appelle les urgences. Point. Et que ce genre de données, toutes les données santé restent sur ton Apple Watch. Hein. Il faut l'activer sur... Ouais, alors pour activer le truc, il faut que vous alliez dans les appels d'urgence sur votre iPhone pour le régler sur l'Apple Watch. Il faut tomber, mais avec un iPhone dans la poche et un casque Apple à 700€ sur la tête, sinon ça ne s'active pas. Ce serait drôle. Ça serait drôle. Pour le Pixel, légalement, si le smartphone appelle les secours pour rien, on risque quelque chose. Je pense pas. J'en sais rien, mais je pense pas. Je pense pas. Voilà! On a fini, allez, on va se faire 10 minutes de fac. Ça va, on est encore dans les temps, pas de panique. On va se faire 10 minutes de fac, et puis on se quittera là pour le week-end. Je lance les camps de fac. Et on termine en beauté avec un petit bol de cornfax. Si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Manifestement, j'ai fait découvrir à plein de monde qu'il faut activer les appels d'urgence. Dans vos vidéos, quel système de stabilisation utilisez-vous pour te filmer quand tu marches dans la rue? On utilise, c'est une très bonne question, c'est un Zhiyun, c'est un stabilisateur externe, c'est un Zhiyun. J'ai plus le modèle en tête, mais c'est un Zhiyun. N'empêche, ça pourrait être en couple AirPod Max. Il y a un gyroscope dans le mode audio spatial. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que des détecteurs de chute pourraient intégrer pas mal d'objets. Ouais. Article de Presse Citron sur une appli sur Android qui s'appelle Driver 360 qui détecte les accidents. Alors, si c'est qu'une appli, faut voir si ça marche avec l'accéléromètre de n'importe quel smartphone. Achètes-tu des bracelets pour ta watch autre que la marque Apple? Tu me poses une excellente question, Léo, parce que jusqu'ici, je n'avais pas acheté d'autres bracelets, mais vous n'êtes pas le premier à me demander. Du coup, j'ai commandé hier un bracelet qui risque de vous surprendre. J'en parlerai probablement mercredi prochain dans notre live de 12h30 qui s'appelle le Shop Nowtech, où on vous parle de produits avec Guillaume et on répond à vos questions d'achat. Ça s'appelle donc, l'émission s'appelle le Shop Nowtech et c'est à 12h30 le mercredi en live. Et justement, je parlerai d'un nouveau bracelet pour ma watch que je dois recevoir aujourd'hui normalement et qui n'est pas un bracelet Apple. C'est le Zhiyun léger, c'est un crâne, mais léger. J'ai plus le modèle en tête, je suis désolé. Attends, bouge pas.
Il doit être là-haut. Ah, je sais plus où on l'a foutu.
Bon, bah c'est un fail, je le trouve plus. Je sais pas où on l'a rangé la dernière fois. J'aurais pu te le sortir. Apple sort un Mac Pro Mini. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai pas eu la confirmation déjà. Nous, on attend effectivement des versions un peu plus. On attend les M1X ou les M2. Il y a un de nos Mac qu'on changerait bien, mais pas tous. Je souhaiterais un conseil pour mes favoris. Ils sont sur Chrome. Mais je souhaite pouvoir y accéder sur d'autres navigateurs. Je viens de passer mes mots de passe sur Bitwarden dans ma démarche de sortir de Google. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je crois qu'il y a des sites qui synchronisent tes onglets entre différents navigateurs. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un spécialiste. Si quelqu'un peut répondre dans la chatroom. Qu'est-ce que tu penses de Notion? C'est quoi déjà Notion? Donc je m'en sers pas là, déjà tu as ta réponse. Je sais plus ce que c'est Notion. On m'en a parlé récemment. Ah non, nous on utilise Trello. Oui, Notion, je sais ce que c'est. Nous on utilise Trello. Donc j'ai jamais utilisé Notion, j'ai pas d'avis, on est assez content de Trello. Jérôme, est-ce que tu penses que les MacBook Air Intel vont encore durer 5 ans? Oui, ils sont encore très bons. Ils seront mis à jour. Oui. 5 ans, oui. Si tu achètes les derniers qui sont sortis, oui. MacBook Pro ou d'AliExpress. C'est un peu ce que, c'est un peu comme si tu me demandais, je sais pas, un choix impossible, vanille ou fraise, j'aime les deux, entre un PC et un Mac. La question est trop complexe, Android ou Apple, ou ça dépend de tes préférences, ça dépend de ton budget, ça dépend de ce que tu as à faire, ça dépend de tes antécédents, ça dépend de l'écosystème qui est majoritaire chez toi. On ne peut pas répondre de manière lapidaire. Lapidaire, ça ne veut pas dire lapider, hein, ça veut dire répondre simplement et sèchement à une question aussi complexe. Quand vous me posez la question, quel smartphone faut-il acheter? Quel appareil photo faut-il acheter? Est-ce que je dois prendre un Mac ou un PC? On ne peut pas répondre. Et une personne qui vous répondrait ne serait pas honnête. Voilà. Vous êtes limité dans le temps pour vos lives à normalement 9h30, j'arrête. Donc dans 2 minutes. En fait, la question que tu te poses, PC ou Mac, c'est le début de ton chemin, petit scarabée. Et moi, ce que j'essaie de faire avec la chaîne, et c'est un travail long et laborieux, j'essaie avec cette chaîne à vous apprendre à choisir vous-même les choses. Quand j'ai fait des vidéos pour vous apprendre à choisir un appareil photo, c'est parce que c'est pas mon rôle de vous répondre quel appareil photo faut-il acheter. Alors je sais, hein, ça serait plus pratique que les youtubeurs soient des machines où on appuie et donne la réponse et t'achète tout de suite. Mais les critères sont tellement différents d'une personne à l'autre et c'est tellement complexe qu'il faudrait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure pour vous donner un vrai bon conseil. Donc je préfère essayer de vous apprendre à choisir vous-même, déterminer vos besoins. Et pour un Mac ou un PC, c'est pareil. C'est que le début de ton chemin. Est-ce que tu connais la chaîne TwinkerView? Oui, je crois. Attends, TwinkerView, c'est les interviews là en noir et blanc? Honnêtement, je trouve des fois que ça va trop vite pour la sortie des portables, même pas le temps de digérer l'iPhone 12 Pro Max. Regarde ma prochaine vidéo, marron la banane. Tu tombes pile poil dans ce que je dis. Elle sortira normalement début de semaine prochaine, ma prochaine vidéo. Honnêtement, je trouve... ça, j'ai déjà lu. En présentant les cams rétractables, je ne comprends pas pourquoi OnePlus a arrêté. Parce que c'est de la mécanique et c'est hyper cher et à fabriquer. Et ils cherchent des solutions industrielles qui sont... Plus c'est de la mécanique qui peut s'enrouer. Donc, ils ont des problèmes de SAV. C'est pas des trucs... Je comprends pourquoi ils ont arrêté, moi, plutôt. Ah, il y a eu le live de Cinéastus. D'accord. Il n'a pas dit pourquoi il était parti avec là. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est vrai que la dernière fois où moi j'ai entendu parler de Cinéastus, il avait fait un crowdfunding pour remplacer son matériel volé. Il est 9h30. Allez, il va falloir qu'on arrête ce live. C'est avec difficulté, parce que je prends beaucoup de plaisir à être avec vous. J'espère que le plaisir est partagé, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses, ou vous êtes bien marré, ou que vous êtes tout énervé parce que j'ai dit des grosses conneries, mais en tout cas que je vous ai stimulé. On se retrouve lundi matin à 8h, on reprend, je vous souhaite un excellent week-end. Encore une fois, allez voir la dernière vidéo de la chaîne, c'est une vidéo importante. Il faut qu'elle fasse des vues, c'est pas un sujet facile, mais c'est une vidéo importante, je compte sur vous pour la promouvoir. Je vous fais des gros bisous, hein. Passez un excellent week-end, on va peut-être... Avant de lancer le générique, choisir qui on va raider. Il y a Samuel Etienne. Allez, vous allez continuer en beauté. Je vous fais un petit raid sur Samuel Etienne. Hop. Je lance le raid et je lance le générique de fin. Bisous.